Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Rêveuses, rêveurs, rôlistes et aventuriers, bienvenue à la table des fabulistes pour un nouvel épisode du Cercle des Héros. Ok.
Un petit carton.
Ok. Tiens, Antonin, vas-y, fais
Moi, j'en ai fait une.
J'aime bien voir tous les
Bubu ici.
Ouais.
Des
sorts
des tours de magie. Tiens, Damien, fais Voilà. Bah, c'est parfait. Ça fait une très bonne introduction d'épisode.
À revenir sur des choses plus mignonnes, je suis allée chez une pote hier qui a écouté toute la saison 1 et qui attend les Love Stories.
Bah bien sûr.
Elle est en mode, quand est-ce que ça nique? Quand est-ce que ça s'embrasse?
Et moi je trouve ça cool aussi justement qu'il n'y en ait pas.
Elle attend que ça.
C'est qu'on soit une promo où justement il n'y a pas de...
Bah ils sont jeunes et puis ils sont tous blasés de toute façon.
Ah le cercle des puceaux.
Tu sais ce qu'on dit, Moyo, sur les mariages, je pense, invite Moon, il y a moyen que ça débloque les trucs. Mage de sol, hop.
Mais il s'en fout.
Mais c'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il a pas compris.
Bah oui, mais j'arrête pas de lui expliquer. Travaillez bien, nous dit Farknam.
Mais qu'il est mignon, ce Farknam.
Mais maintenant, on a une commu. D'ailleurs, au moment où on enregistre, même si ça fait longtemps pour ceux qui écoutent, on a fait notre petit Discord et on a rencontré plein de gens super bien. Et on fait des théories, on crée des PNJ, des bouts de lore, des accessoires magiques, etc. Donc, si ce qu'on fait, ça vous plaît et que vous voulez aussi partager avec nous, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord parce qu'on y est toutes et tous et on s'amuse comme des zinzins. Donc, à tout à l'heure. Est-ce qu'on résume tout ça?
C'est parti.
Alors, c'est parti.
15e jour après notre renaissance. 90 jours avant la grande arène. Nous voici enfin en vue de Brise-Mur, et je profite du temps qu'il nous reste avant d'accoster pour retranscrire dans ce carnet ce que nous avons pu apprendre durant notre voyage. D'abord, nous avons découvert l'identité du Hachoir. Il s'agit de Sophia El-Kaïb, issue de la même promotion des maudits que Tosca. Il est dévasté, bien sûr, et s'il n'a jamais été très causant, il est devenu encore plus muet qu'une brique. L'empathie est un sentiment bien étrange. C'est, plus que toute autre action qu'il aurait pu entreprendre, son sentiment de trahison qui réussirait presque à me rendre sympathique ce bon vieux tocard. J'ai même cru voir Nova hésiter à aller lui porter une assiette hier, ce qu'elle n'a finalement pas fait. Ensuite, après recoupement, nous soupçonnons Pregus Niftelin d'être à l'origine de toute disparition d'informations concernant le mal d'Olo. Ce qui signifie que la citadelle n'est pas un endroit sûr et que tous les messages écrits sont interceptés par nos ennemis, les nôtres comme ceux des marchands, des amoureux, des dignitaires et même des barons. Nous ne comprenons toujours pas les motivations profondes de nos ennemis, ni ne connaissons leur nombre, mais nous avançons peu à peu. Tout cela me paraît lié à la destruction des portes. Comment? Pourquoi? Voici de vraies questions. Il est possible que tout ait commencé par accident, la destruction de la première porte par Emilius de Blême pour sauver un enfant. Qu'est-ce que cela a changé? Si nous le découvrions, nous pourrions peut-être mieux anticiper la direction que prennent les événements. Pour le moment, nous devons nous contenter de ces bribes d'informations, les collecter patiemment en attendant que le puzzle prenne sens. Heureusement, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. En discutant avec l'oracle et en puisant dans nos propres souvenirs, nous avons fait une découverte importante. Presque chaque baronnie a ou a été, à un moment de son histoire, dotée d'un arbre sacré. Nous en avons trouvé à Racine, à Lac-Froid, à Givrefou. Cela semble mort, perdu bel et bien. Mais l'arbre maison de Sous-Colline est aux dernières nouvelles bien vivant et nous avons de bonnes raisons de penser qu'il s'agit d'un arbre sacré passé inaperçu en quelque sorte. Peut-être a-t-il encore échappé à la vigilance de nos ennemis. Auquel cas, il représente le remède tant attendu contre le mal de l'eau et un vrai bâton dans les roues de nos adversaires. Trois graines de ces arbres sacrés ont aussi été confiées à Moyoko Yotsin. L'une d'entre elles a été envoyée à Momok et Misu afin qu'ils replantent un arbre de leur côté. C'est drôle, il me manquerait presque ces deux-là. La franchise et le courage de leur peuple avaient quelque chose d'admirable. J'espère que la portée diplomatique du geste de Moyo aura su les toucher et que nous pourrons les revoir bientôt. En parlant de Moyo, chaque jour qui passe me confirme la transformation de mon ami. Il était hier comme une chenille et nous le voyons peu à peu papillon. Son petit acolyte, ses nouvelles responsabilités, ses discussions tardives avec l'oracle l'ont aguerri et je mesure à son ombre tout ce qu'il me reste à acquérir. Le voilà prêt à guider son peuple et j'espère que le procès qui s'annonce saura libérer Racine de l'emprise qu'elle a récemment subie. En tout cas, Sol, Keyal, Nova et moi-même serons derrière lui pour le soutenir. Dans un encadré, sur la même page, titre, suivi des artefacts majeurs. Le catalyseur servant au rituel du point zéro et permettant de doter un humain du son azur est en possession de Minéas. Il s'agit du médaillon qu'il a autour du cou. L'épée d'Azel n'est finalement pas dans une tombe, mais entre les mains de Tosca. J'ai même réussi à en faire surgir la lame.
C'est sous une belle après-midi de printemps que vous entendez le chant des oiseaux de sel qui annonce votre arrivée en vue des côtes. Les petits navires de pêche qui croisent le chemin de votre jonque semblent revenir d'une pêche fructueuse en ces eaux favorables. L'odeur significative des grandes places marchandes et la splendeur des tours et murs d'enceinte à la pierre blanche tout droit tirés des carrières de calcaire ne saurait mentir. Vous voilà à Hors-Plaine. La cité de Brise-Mur surplombe les falaises au pied duquel vous accostez. Les effluves des poissons et la fragrance des parfums de nobliaux se mélangeant à l'odeur de l'acier frappé et du cuir tanné. Le quai est agité par un marché, réunissant marauds, ribaudes, artistes, serviteurs et marins. Dans une clameur qui vous rappelle les plateaux du Cercle des Héros lors de la fête des pommes. Vous êtes de retour. Alors que vous descendez de votre navire, vous voyez au loin une petite escorte armée, arborant les symboles de l'Ordre de l'Œil. Et en marchant devant cette troupe, vous reconnaissez le commandant Ecléa, seconde d'Auguste de Blême que vous aviez vu lors de la rencontre au sommet organisée par Minéas pendant les 4 mois de commandement. Et je voudrais que vous, ceux qui ont le regard, celles et ceux qui ont le regard un peu vagabond, me fassent un petit jet de perception, s'il vous plaît. Moyo, on va changer quelque chose, si tu veux bien. Quand tu es avec Zuri, tu me feras tous tes jets de perception avec avantage. si tu n'es plus avec Zuri,
ça sera avec
ou qu'elle n'est plus dans ton sillage, tu feras tous tes jets avec des avantages.
Ok.
8.
Ça me paraît logique.
C'est tu vois à travers ses yeux.
9.
Moi aussi, 9.
Donc là, Zuri est avec moi, donc. Avec avantage. Ah bah, c'est cassé les deux. 20, naturel.
Très bien. Ouf. Vous autres, vous voyez vraiment toutes sortes de navires accostés sur ce quai. On y charge différentes choses, etc. Mais vous êtes assez absorbé par l'arrivée de Ecléa et de cette escorte de l'œil. Mais toi, Moyo, derrière la proue d'un immense navire marchand, tu reconnais très légèrement sortir de l'eau le petit périscope du navire de Ketuvik Pulpos. Et alors que tu as fait un vin naturel, tu vois aussi que sur ce navire, cet énorme navire qui... Alors que tu vois aussi que ce navire qui le cache charge des espèces de grosses malles, de grosses caisses. Tu vois un homme tenant une sorte de livre de comptes discuter avec son interlocuteur qui a l'air de parler de leurs transactions de marchandises. Et l'un se fait pousser, ce qui découvre son visage légèrement. Son capuchon tombe sur ses épaules et tu vois deux oreilles pointues, tu vois les signes distinctifs d'un elfe qui serre la mâchoire et remet rapidement sa capuche, lance une bourse d'or à son interlocuteur et remonte sur son navire.
L'elfe, je suppose que c'est le propriétaire du bateau.
Tout à fait.
Et du coup, le marchand avec qui il a eu l'altercation, c'est le chef du port, quoi, en fait.
Ça a l'air, en tout cas, ça a l'air de ressembler à ça, oui.
Ok. Le périscope du vaisseau de Ketuvik est juste là, il observe et puis il reste sans bouger, il est sorti, il est re-rentré, enfin,
de traces de gnomes ou de gens que tu as connus, mais tu reconnais vraiment ce sous-marin dans lequel tu as navigué quelque temps.
Est-ce que je peux savoir s'il y en a plusieurs ou tout de suite fabriqués dans le monde de Sirius, ou c'est le seul qui a été...
Tu peux me faire un jet de histoire, si tu veux.
Histoire, ça fait 19, 17 plus 2.
Eh bien, tu n'en sais rien.
Je n'en sais rien, ok.
19 plus 2, donc ça faisait 21.
17 plus 2.
17 plus 2, oui, donc tu ne sais pas. Ouais. Ça t'a vraiment... étonné de voir ce navire la première fois, mais tu sais pas si c'est quelque chose de commun et tout. Tu te rappelles un peu les conversations avec peut-être Sol, etc., qui avait l'air plus habitué, mais tu te rappelles que Ketuvik quand même avait dit que c'était un peu son navire personnel. Il y a de grandes chances qu'il soit unique, mais t'en es pas si sûr.
Ok. J'en fais part à mes camarades. Je me retourne et puis je dis, hey, regardez, dans l'eau.
Ben quoi?
Il y a le périscope, il est toujours dans l'eau, on le voit toujours sorti.
Alors que Moyo vous indique précisément l'endroit où il fallait le voir, très discret, vous voyez effectivement ce périscope et l'ondée de l'eau laisser apparaître des fois la surface de ce navire que vous connaissez, de ce sous-marin. Le racleur de fond.
Voilà, ça se trouve, il nous suit depuis un moment.
Non, mais il est peut-être là pour faire des emplettes. C'est une
grande
place marchande.
S'il était là pour faire des emplettes, il se prendrait pas le... Il se ferait surface.
Ouais. Moi, je me tourne vers le périscope et je salue la personne qui pourrait regarder au travers du périscope. Je fais un signe clair montrant qu'on les a vus.
Le périscope n'a pas l'air particulièrement tourné vers vous. Et alors que tu fais des grands coucous vers l'horizon, vous commencez à entendre et le petit contingent qui s'avance vers vous est suivi d'un soldat qui joue de ce tambour, cette espèce de percussion martiale, et ils marchent tous au pas et se figent devant vous.
Le commandant Ecléa, second d'Auguste de Blême, vous accueille, héros du cercle.
Et vous voyez effectivement le commandant Ecléa enlever son casque de sa belle armure de plaque et la mettre son casque sous son bras. Bienvenue en Brisemur.
Bonjour à vous, commandant Ecléa, et merci de nous accueillir dans cette formidable cité. Si je me rappelle bien, c'est là qu'Ozal est né.
Il est né non loin, en effet. Ah. Ses murs regorgent de gloire, d'histoire et de héros. Beaucoup ont acheté des commerces et des maisons ici. Vous rencontrerez peut-être vos prédécesseurs. Certains ont échoué dans la tâche qui vous incombe. D'autres ont fait fructifier leur commerce. En tout cas, vous êtes ici, chez vous.
Est-ce que je l'ai déjà croisé, sachant que c'est pas dans la ville où j'ai grandi, mais c'est sur les terres de la noblesse?
Pas particulièrement. Elle a sûrement dû rejoindre le commandement alors que tu étais apprenti au cercle.
C'est une commandante.
Ouais, elle est assez jeune. C'est une jeune femme d'une peut-être une trentaine d'années avec une coupe un peu à la garçonne, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux rasés sur les côtés et légèrement brossés en arrière sur le haut. Elle a des yeux verts, très très vert pâle, qui fait ressortir une toute petite pupille. Elle a un regard assez électrique et des taches de rousseur. C'est Juliette Augereau. Elle a des taches de rousseur sur le visage et vous percevez derrière son armure un gabarit assez athlétique. Elle fait un bon mètre 80. Et ouais, c'est vraiment Brienne de Tarth, ouais. Avec Juliette, quoi.
Donc je la connais pas.
Et tu la connais pas. Okay. Vous l'avez par contre rencontrée vraiment au conseil au cercle des héros. Elle représentait Auguste de Blême.
Tu peux me rappeler son nom?
Tout à fait.
Okay. Ecléa.
Ecléa.
Le commandant Ecléa.
C'est la commandante.
Et c'est la seconde de l'ordre de l'œil, du coup.
Oui. Pardon. Okay. Ok. Tout à fait.
Est-ce que j'en profite pour poser une question hors jeu? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on sait sur l'ordre de l'œil et en fait à quel point il est lié à Orplaine? C'est surtout ça que je m'interrogeais en fait.
Ce que vous savez toutes et tous, c'est que le baron Emilius de Blême, qui est le baron d'Orplaine.
Donc frère de Auguste de Blême.
Père
de Auguste de Blême.
Le baron Emilius de Blême.
Oh la vache.
Alors écoutez.
Ah oui, non. Le
baron de Brisemur, donc ouais. Le baron d'Orplaine, est Emilius de Blême, un éminent guerrier qui n'a pas le sang azur et qui a, il y a quelques années, peut-être 20-30 ans après le schisme qui a divisé Sirius en baronnies, ouais. Eh bien, il a fondé l'ordre de l'œil pour soutenir ce nouvel ordre. Il a eu un fils, Auguste de Blême, qui a pris le commandement de cet ordre de l'œil et effectivement, c'est aussi le père adoptif, Emilius de Blême, de Tosca. Ce que vous savez, c'est que l'Ordre de l'Œil était en collaboration et au service des héros, puis, peu à peu, alors que les héros s'enrichissaient ou n'allaient plus sur des missions, etc., ou devenaient descendants, ou n'allaient plus sur des missions qu'ils jugeaient trop peu importantes, alors l'Ordre de l'Œil est devenu vraiment le rempart pour le peuple, quoi, le rempart contre les monstres, contre tout ça.
Dit autrement, en fait, c'est que les héros, ils choisissaient un peu les quêtes qui leur intéressaient, et en fait, l'ordre de l'œil se retrouvait en fait à récupérer tout ce que les héros voulaient pas faire, quoi.
Il y a vraiment de ça, et surtout les héros. Avant, tous les héros étaient formés, et maintenant, vous êtes une promo de
4.
Seulement 4 héros. Et tous les autres au sang azur, je veux dire. Alors que maintenant, tous les sang azur ne sont pas formés, et vous en avez vu quelques-uns. Et ils utilisent leur pouvoir
pour d'autres choses et très vite jouissent des bénéfices des banques ou des choses comme ça pour créer des commerces ou créer des guildes, etc. Mais très peu de héros finalement sont formés. Beaucoup deviennent mercenaires ou ce genre de choses.
Est-ce que c'est est-ce qu'ils font appliquer la loi? C'est ils ont valeur de garde quoi? Ou est-ce que c'est plutôt une milice qui va faire des missions spécialisées?
La problématique de l'ordre de l'œil, c'est que c'est les gardiens de la justice de Sirius, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir sans bannière sur toutes les baronnies, mais le fondateur de cet ordre et le père du commandant, c'est un baron d'or pleine.
C'est le genre de casque bleu, mais
ouais, c'est un peu particulier.
Normalement, dans leur objectif, il faudrait être neutre, mais ils ont des conflits d'intérêts puisqu'ils sont plus liés à or pleine qu'aux autres baronnies.
Et l'œil. D'accord. Est réputé pour intégrer en son sein autant du sang rouge que du sang azur, où il y a un espèce de racisme latent contre tous les sangs azur.
Eh bien, vous ne savez pas trop en réalité. Faites-moi un jet d'intelligence. Fais-moi, Andy, puisque tu te poses la question.
Alors, tic-tac-tic, un jet d'intelligence. Ouf, eh ben c'est pas brillant. Hein. 6-1, 5.
Non, tu sais vraiment pas. En plus, tu n'étais pas là pendant les 4 mois de commandement de tes compagnons, et donc tu as du mal à savoir où sont ces sans azur, où sont ces sans nom, est-ce qu'ils rejoignent les troupes. Tu ne sais pas.
D'accord.
C'est bon pour vous?
Oui.
Ok.
Pendant que Sol répond à
Ecléa,
je fais une révérence pour saluer l'accueil.
Et alors que tu fais une révérence, elle lève légèrement un sourcil sur toi et s'avance et te tend une main pour te saluer de façon moins protocolaire. Et
ouais, je me redresse, j'ai un petit temps d'arrêt. Je la regarde dans les yeux et je me redresse et je lui serre la main.
Et tu vois qu'elle a une poigne vraiment extrêmement puissante, mais elle ne te broie pas la main, il n'y a pas de défi du tout. Elle te regarde avec un léger sourire et fait « Je vous souhaite particulièrement un bon retour chez vous, Nova de Pâle. »
Merci à vous.
Et elle se retourne vers chacun et chacune d'entre vous. Si vous voulez bien avoir l'obligeance de me suivre, le commandant Auguste de Blême souhaiterait vous entretenir.
Avec plaisir. J'ai une petite question. Est-ce que Tosca et l'oracle sont avec nous?
Et ils sont pas sortis de leurs appartements. Ils sont même pas sur le pont encore.
Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit de venir avec nous, peut-être?
Non.
Non? Je sais pas, je me dis... Si on arrive avec l'oracle, on explique.
On va aller voir le frère adoptif de Tosca et son père adoptif également. Je pense qu'il faut absolument l'attendre. Cléa vous interrompt.
La garde qui m'accompagne n'est pas là pour escorter des héros tels que vous, mais bien pour escorter l'oracle pour son procès. Voilà. Ne vous inquiétez pas, nous allons les prendre en charge et Maître Tosca est à lui seul une force suffisante, je pense.
Très bien, merci de nous rassurer, commandante. Nous le suivons, ouais. N'est-ce pas?
Et je m'éclipse du groupe.
Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît.
5.
Eh bien, alors que tu te... discrètement, eh bien, Ecléa te voit et juste... votre ami ne nous accompagne pas. Et vous voyez tous Moyo vraiment figé, prêt à partir.
Miyoko, tu fais quoi?
Le truc dans l'eau, non?
Oui, il nous reste une dernière chose à faire. Nous vous rejoignons tout de suite. Moi, du coup, je vais avec Cléa, afin qu'il n'y ait pas l'un d'entre nous qui reste tout seul.
cher apprenti héros, je suis navré. Le temps presse, ce procès a été retardé plus que de raison. Peut-être que c'est ici l'affaire la plus pressante et je vous assure que vous aurez tout le luxe et tout le temps de jouir de notre magnifique cité. Mais j'insiste sur le fait que le commandant de Blême souhaite vous voir au plus tôt.
Je les fusille du regard du coup tous les deux, avec les yeux noirs, et je fais un petit signe de tête comme ça, genre bon, hé. Hey.
Moi je me retourne et je fais une photo mentale du bateau, de la cape et du marchand qui était sur le pont, vraiment pour être sûr que si je les croise même du coin du regard, je puisse retrouver l'un des trois.
Très bien.
Avec Zuri, qui est à côté de moi, donc je lui en touche deux mots.
Je me le note.
Moi, je me retourne vers notre bateau et je m'apprête à suivre mes camarades, mais avec un grand regret de ne pas attendre ni l'oracle ni Tosca. Je trouve ça très étrange d'accoster pour ce procès, de nous séparer directement de la personne que nous avons eu tant de mal à retrouver. Ça ne me semble pas du tout logique, pour être honnête.
Si tu t'en parles à voix haute.
Disons que toute mon attitude le montre. Je continue de ne pas suivre la commandante qui nous presse et j'ai tout le corps qui est tourné vers le bateau.
Et alors elle s'arrête et pose un regard sur toi. Je vous assure que votre maître sera protégé, l'oracle, et nous ferons de même. Nous devons nous presser car vous n'allez pas dans le même lieu. L'oracle va être conduit et escorté directement au palais de la justice de l'œil, alors que vous êtes attendu dans les bureaux du commandant. Vous allez très vite vous retrouver, n'ayez crainte. Laissez-nous prendre le relais.
Allez, viens, Andy.
Ok, j'admets, je suis.
Alors que vous avancez, vous faites quelques pas et vous voyez que, effectivement, Brisemur, c'est vraiment ça, la ville est fortifiée et se jette dans l'eau sur une falaise. Et alors qu'il y a la criée et le port et ce petit marché que vous quittez, vous voyez un quartier à l'est qui a l'air d'être un quartier plutôt pauvre. Et plus au loin, une rangée de rues très droites où vous pouvez bien comprendre que les quartiers sont répartis entre le quartier pauvre, le quartier des artisans, un quartier plus riche. Et plus haut sur le plateau, vous voyez se dresser un édifice immense sur lequel on dirait comme une grande fleur. Un grand édifice avec un toit très pointu et plusieurs tours. Et il y a comme des sortes de quais aériens qui distribuent ce lieu, et sur ces quais, à certains endroits, est stationné certaines créatures volantes, des aigles immenses ou encore une vouivre qui ont l'air harnachées.
Est-ce qu'on a l'habitude de voir ça ou est-ce que c'est très nouveau?
C'est très nouveau.
D'accord.
C'est en Sirius, le voyage par le ciel, c'est pas quelque chose que vous avez vraiment vu. Et vous reconnaissez l'énorme forteresse judiciaire de l'œil, l'ordre de l'œil.
Okay. Est-ce qu'on repère Moi, j'essaye. Enfin, Sol essaye de regarder s'il n'y a pas des bâtiments religieux qui ressemblent à des sanctuaires ou alors des temples ou.
Complètement, il y a beaucoup
en
de...
En particulier dédié à Ozal ou du coup aux anciens dieux
Plutôt lié aux anciens dieux, mais alors que vous avancez et que sur votre passage, certaines personnes laissent tomber leur panier de fruits ou vous regardent, etc., vous arrivez devant une rangée de fiacres harnachés par des chevaux qui sont ornementés de plumes et de choses comme ça. Bref, vous sentez qu'on a mis les formes. Vous êtes invité à monter. Et alors que vous remontez la rue en direction de ce palais de la justice, vous passez devant une place centrale avec une énorme statue immense, colossale, à l'effigie d'Ozal, et qui a l'air d'être vraiment le point central de la ville.
On est à pied là ?
Non, vous êtes en fiacre.
D'accord. Du coup, en passant devant la statue d'Ozal, j'attrape mon médaillon et je
Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît.
Ça marche.
Et tu peux mettre ton bonus. Tu as lecture jargon.
Oui.
Tu peux ajouter ton bonus de maîtrise.
Ok. Si wow. Du coup, 18.
Tu vois que sur cette immense statue où il y a beaucoup d'offrandes, etc., il y a certains graffitis dans les coins, etc. Et tu comprends que c'est des graffitis en jargon qui à la fois indiquent des lieux de rendez-vous, et certains autres qui indiquent plutôt des contre-pouvoirs, mort au roi ou abat la royauté, etc. Okay. Ce genre de choses.
Je voudrais du coup bien observer la statue maintenant que, enfin tu vois, en me disant c'est ma famille.
Eh bien, tu vois que Ozal est représenté en tenue assez simple. C'est-à-dire qu'il a une simple bure avec juste une cape de fourrure, une petite ceinture de cuir, et il a dans sa main le pommeau d'une épée avec une lame immense qui touche le sol. Une grande lame plantée dans la pierre. Sa longue chevelure une longue chevelure, ça te rappelle les gravures de lui, ses longs cheveux blancs sont vraiment couronnés.
C'est blanc, hein, ses cheveux.
Ouais. Mais blanc vieillesse, pas blanc Andy.
Ah, ok.
Non, ça ressemble, mais blanc, un blanc vieillesse.
Ok. Je demandais. Hein.
Et... Non, c'est un ancien roux.
Et tu vois que il a une couronne très simple. Ça t'étonne en fait de voir qu'il est représenté vraiment comme un homme simple. Et dans sa main, il tient une sorte de médaillon, une sorte de sphère au bout d'un médaillon.
Ça ressemble au médaillon des héros.
Ça pourrait te faire penser à ça. Elle est pas détaillée. Il y a un collier et au bout de ce collier une sorte de sphère. Et ça pourrait ressembler à ce catalyseur de Minéas, ça pourrait ressembler à autre chose, mais ça peut t'y faire penser.
Est-ce que, en observant le visage de la statue, je me dis oh la vache, on a les mêmes traits ou rien à voir.
Non.
En même temps, c'est une statue. Ça
te semble quand même une statue qui est vraiment qui veut montrer un homme du peuple, mais il paraît moins âgé que peut-être ce qu'il devrait avoir. Il y a des traits. Elle est quand même embellie, quoi.
C'est pas un portrait fidèle.
C'est probablement pas un portrait si fidèle que ça.
Ok.
Et on voit, il y a pas de signature frisique dans un coin.
Non.
On n'a peut-être pas le temps de voir de là où voir une signature.
Est-ce que je vois la réaction de Sol face à cette statue?
Je ne fais aucun effort pour cacher cette réaction.
Et du coup, elle m'interroge pas mal. Je le garde par devers moi. Mais la réaction de Sol m'interroge un peu, et notamment son médaillon que j'ai déjà remarqué une première fois. Et que là, il le touche instinctivement, alors que jusque-là, il le cachait plutôt précieusement. Voilà, ça m'interroge.
Je peux te décrire, parce que c'était jamais franchement caché. En fait, Sol, autour de son cou, il a trois médaillons maintenant. Il y a un médaillon qui tu comprends que ça symbolise les anciens dieux, puisque c'est un cercle. Il y a un côté en forme qui évoque plutôt une forme solaire, un soleil, et l'autre côté qui évoque plutôt une lune, donc ça évoque les deux astres qui sont liés aux anciens dieux. Un autre pendentif qui représente plus un feu dans une cheminée, l'idée du foyer, et donc ça tu sais que c'est plutôt lié à la... il t'a certainement déjà dit son nom, c'est lié à Thelma, c'est la déesse qui protège son clan. Et le troisième médaillon, c'est un médaillon d'Albas, qui est donc le dieu de l'aube, que lui a donné un prêtre, ou en tout cas une sorte de, un homme religieux, quand on l'avait croisé, à Roche-sous-Puits avant la crise des égarés. Oui, le truc, c'est du toc. Mais c'est religieux, okay, c'est pas magique.
Donc t'as dit quoi, médaillon d'Albas?
Oui, un médaillon qui représente les anciens dieux, un médaillon de Thelma, c'est la déesse qui protège son... C'est une déesse protectrice qui est plus liée à ses origines gnomes, ouais, apparemment, ouais, et dont vous n'avez jamais entendu parler avant de rencontrer Sol, oui, et ensuite Albas, qui est un des anciens dieux.
Okay. D'accord, c'est pas l'espèce d'objet étrange avec une pierre brisée.
Ça, c'est différent.
Qui continue en... D'accord.
Et t'as ton médaillon de héros aussi.
Oui, tout à fait. Donc je suis blindé en fait de.
Il a plein de.
Mais le médaillon, est-ce que je le porte autour du cou ? Est-ce que je le garde dans ma poche ? Je le porte autour du cou. Ouais. Voilà. Et non, c'est différent. Hein, ce n'est pas le même objet que ce dont tu parles. Ça, il n'y a pas de trace.
Alors que vous avancez et que vous voyez vraiment une cité magnifique, imaginez-vous les châteaux de Loire avec ces pierres blanches calcaires. Imaginez-vous vraiment... l'abbaye de Fontevraud, ce genre d'architecture, est assez moderne. Il y a vraiment des milices qui passent, mais des caniveaux bien faits. C'est vraiment propre. C'est une cité très lumineuse. Et vos fiacres s'arrêtent au fond de cette ville. La mer est maintenant bien loin derrière vous, sur une sorte de place de marché, et s'arrêtent devant des escaliers immenses. Et de part et d'autre de ces escaliers, à gauche et à droite, il y a une sorte d'arche faite de deux statues. Et ces deux statues sont à l'effigie d'Emilius de Blême, qui tend une main face à la cité. Et de l'autre, il y a un personnage. Faites-moi un jet d'histoire, s'il vous plaît.
20 naturel plus 5, 25.
Hey, c'est chez toi, tu connais.
Oui, je connais, ouais.
Moi, j'ai fait 15.
C'est ma mère, elle m'a raconté.
14.
19. Okay. Tiens, on a bien révisé. Hein.
Les filles studieuses.
Les 19 et plus, vous reconnaissez que cette statue est probablement quelqu'un qui n'existe pas, mais qui a l'air de représenter une sorte d'incarnation de la justice. Une sorte de divinité de la justice.
On connaît
elle
pas son nom.
Elle ne semble pas avoir de nom. En tout cas, ça ne vous dit rien. Et vraiment, c'est compliqué de reconnaître ça. C'est-à-dire que ça vous semble être une vision artistique, ce personnage de la justice. Humanoïde, mais pas vraiment, qui semble avoir des traits de plusieurs espèces, de plusieurs races, qui semble être presque métamorphe et qui a des symboles qui représentent plusieurs champs lexicaux de la justice, etc. Ça a l'air vraiment d'être une œuvre qui serait mise en parallèle d'Emilius de Blême comme son alter ego de justice.
Et ben en tout cas,
c'est une œuvre magnifique. Les deux statues sont absolument sublimes. C'est un travail vraiment remarquable.
Ces statues, c'est l'entrée de la forteresse ou du palais de...
C'est l'entrée d'une place qui se trouve un peu plus haut et qui se trouve enclavée par une grande falaise, le début de légère montagne. Sur cette place, il y a une sorte de marché avec des boutiques vraiment très bien ornées. Il y a des cabinets de notaires, il y a des médecins, il y a des artisans avec des noms renommés. Il y a de grandes maisons luxueuses, il y a un temple, il y a cet énorme palais de la justice. Et il y a une forteresse encastrée dans ce mur blanc, comme troglodyte. Avec des tours troglodytes qui ressortent. Et en son centre de cet énorme vitrail qui est troglodyte à la pierre, il y a un œil magnifique. Et c'est ici que vous êtes conduit. Alors que vous arrivez devant cette porte façonnée dans la pierre, vous voyez une rangée de dizaines et de dizaines de personnes qui font la queue, qui attendent de passer par une petite porte pour rentrer dans ce bâtiment, et d'autres qui ressortent. Vous voyez une mère et son fils qui tient son fils, qui pleure et qui essaye de le consoler. Vous voyez vraiment deux personnalités qui ont l'air d'être des magistrats, qui ressortent avec des parchemins en discutant, etc. Vous voyez que c'est un lieu administratif très fréquenté. Et alors que vous rentrez...
Les gens qui font la queue, est-ce que en termes de classe sociale...
Il y a tout.
Ok.
Il y a tout, et effectivement c'est assez drôle de constater, pour le coup, que il y a des gens très bien habillés qui font la queue derrière, vraiment des gueux, des malandrins, et qui vraiment ont un mouchoir sur le nez, et mais tout le monde est dans son rang. Et il y a effectivement des gardes postés à plusieurs endroits. C'est une place bien armée et bien gardée. Et tout se passe dans le calme. Et alors que vous passez sous cette magnifique rosace de lumière avec cet œil, vous arrivez dans un immense hall où il y a beaucoup d'activités. Et au milieu de ce hall, il y a une sorte de grande table ouverte avec un homme au milieu qui... c'est l'accueil qui a l'air d'administrer, etc. Et vous passez par un ensemble de marches et de couloirs qui vous enferment et vous enfoncent un peu plus dans la pierre jusqu'à arriver à un petit salon devant une porte complètement dorée. Une grande porte dorée. Et Cléa vous arrête. Je vais prévenir le commandant de Blême que vous êtes arrivé. Veuillez attendre ici un instant. Et elle passe par cette porte. Faites-vous quelque chose de particulier ?
Je suis toujours avec ma photo mentale là, que j'ai prise des bateaux. Et est-ce que, par tout hasard, il y a Zori ou moi-même qui aurait aperçu le marchand ou l'elfe ? Et est-ce que il y a toute classe et toute race confondue, enfin, est représentée dans ce hall-là ?
Tout à fait.
Donc est-ce que on peut... je cherche un elfe, en gros, ou je cherche d'autres hommes serpents, juste par curiosité pour savoir.
Fais-moi un jet de perception avec avantage, qui comprendra l'ensemble de ton trajet.
Vin naturel,
aucun homme serpent,
okay.
T'en es certain. Et elfes, tu en as vu plein. Mais ce sont des esclaves, des travailleurs, des porteurs, des gens qui font le service dans les terrasses, des gens qui portent les fiacres à main, des scribes. Il y en a de différents rangs.
Aussi, ouais. Okay. Est-ce qu'il y avait des elfes dans la file d'attente des gens qui étaient à l'entrée ?
Non. Des demi-elfes, par moment, mais peu. Et tu constates que... aucune mendicité. C'est-à-dire que tu as déjà vu où on t'a parlé du traitement des elfes, et il y en a beaucoup qui sont mendiants, et là non, tu ne les as pas vus.
Ils travaillent en fait. Tout le monde travaille. C'est peut-être des boulots un peu. Il n'y a pas de boulot au seau et pas de.
Mais c'est ça l'idée, ouais. Okay. Mais aucun homme serpent.
Ok. Bah, je réajuste mon capuchon.
J'allais vous dire que tout le monde était égal devant la justice ici, mais je m'aperçois qu'il y a des esclaves elfes. Donc bon, finalement, pas tellement.
L'organisation de la ville me fait penser à une justice un peu à deux vitesses. Il y a l'air d'avoir des quartiers pauvres qui sont très séparés des quartiers riches, qui sont très séparés d'encore d'autres types de quartiers. J'ai l'impression que les pauvres n'ont qu'une seule raison d'aller dans ce quartier, c'est quand ils ont affaire à la justice. Ce n'est pas tout à fait égalitaire, au moins.
Ceci dit, pardon, pour juste argumenter que ce que tu m'as dit, Moyo, dans l'enceinte du lieu dans lequel vous êtes, dans cette forteresse de l'œil, pour le coup, tu n'as vu aucun elfe.
Ah, ouais, ok.
Ah, d'accord. Ah,
c'est vraiment dans la ville, pardon.
Ok.
Je fais pas de commentaires, mais par contre tout le trajet et tout ça, Nova est assez mal à l'aise puisque on sait bien que l'ordre de l'œil, en vrai, bah, ils nous aiment pas trop, c'est pas trop nos copains, quoi.
Ben.
Et puis surtout, bah, par rapport à qui je suis et tout ça.
Oui, voilà.
Je suis assez mal à l'aise. Et je suis assez mal à l'aise et je trouve qu'il y a une certaine opulence que je ressens un peu mal placée avec tout ce qu'on a vécu aussi. On sort du village qui a été détruit, les égarés, tout ça. Et ça me fait très étrange d'être dans une ville qui semble vraiment avoir beaucoup de moyens et tout ça. Et les grandes statues et tout. Et c'est comme s'il y avait un décalage après tout ce qu'on avait traversé ces derniers mois. Et c'est un peu... Du coup, je suis un peu muette et un peu assommée de toute cette situation. Du coup, je réponds pas trop.
En voyant ça, j'essaye un petit peu de... qu'est-ce que vous... Je pense qu'on peut considérer Auguste de Blême comme un allié. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en suis pas si sûre.
Auguste de Blême en lui-même, je n'en sais rien. J'ai l'impression que l'ordre de l'œil veut la même chose que nous et qu'on est dans le même camp. En tout cas, les dernières discussions que j'ai eues avec le commandant Sorn allaient dans ce sens-là.
Et puis, moi, quand on était à Rochoupi, il y a assez longtemps, j'avais écrit une lettre à Auguste de Blême pour lui signifier qu'on voulait être dans une logique de coopération. Donc,
Quand je les entends dire ça, je dis rien, mais ça me blesse. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'ils ont oublié de quelle nature je suis et que ces gens-là... l'ordre de l'œil part du principe que si t'es un sorcier, tu dois mourir sans aucune forme de nuance ou quoi que ce soit, et du coup j'interviens pas, mais par contre ça me fait du mal de les entendre dire oui ça va, on peut leur faire confiance, c'est des alliés et tout, et j'ose même pas dire mais attendez, faut faire attention ou des trucs comme ça. Je reste dans mon mutisme.
Alors que vous discutez, la porte s'ouvre à nouveau et vous voyez une jeune femme avec une livrée de scribe. Excusez-moi, navré de vous interrompre. Le commandant de Blême va vous recevoir. Et alors que vous passez cette porte dorée, vous voyez elle donne sur une salle vraiment assez grande et en une sorte de grand couloir avec pareil ce genre de piliers. Et il y a une estrade au fond et une estrade circulaire. Et au fond, il y a une énorme bibliothèque. Et au-dessus de cette bibliothèque, il y a cette grande rosace avec l'œil gigantesque qui donne sur l'extérieur. Et dans un bureau de pierre, derrière un bureau de pierre, il y a un homme, Auguste de Blême, qui est un homme à la mâchoire vraiment un peu prognate, rasé de près. Il a des cheveux blonds, mi-longs, tressés en nattes, en petites couettes de guerrier sur le derrière. Il a une livrée assez fonctionnelle, c'est-à-dire que vous voyez, il a des brassards de cuir, des braies assez renforcées mais souples, et il n'a pas d'objet ostentatoire autre qu'une magnifique épée. Aux côtés et une chevalière au sceau de sa famille. Et alors que vous avancez,
le sceau, l'emblème des deux blèmes, si tu l'as, ce que ça représente.
L'emblème des deux blèmes, c'est un soleil, et chaque branche de ce soleil est une lame différente.
Une lame, c'est fait d'épée.
Ouais, d'épée ou pointe de flèche ou de choses comme ça.
Okay. Des couleurs en particulier?
Elle est en or.
D'accord. Merci.
Il se lève. Apprenti héros, bienvenue en Brisemur. Bienvenue dans la forteresse de l'œil. Et vous voyez le commandant Ecléa qui se tient au garde à vous derrière. Vous connaissez déjà Ecléa. Qui me seconde.
Je voudrais, si c'est possible, lancer très discrètement, sans qu'il se rende compte, une détection des pensées sur Auguste de Blême.
Ok.
Il commence.
Est-ce que c'est verbal et somatique?
Oui, tout à fait.
Okay. Fais-moi un jet de discrétion.
Ah, parce que du coup, ça veut dire
parce qu'il vous regarde et tu prends une pièce de cuivre dans ta poche, tu fais.
Ah ouais,
je veux lire dans tes pensées.
Tu incantes, donc ça peut se voir.
Ah, merde.
Donc, si tu veux le faire, tu peux, mais je voudrais que tu me fasses une description avec un jet de discrétion.
Là, tout le monde nous regarde.
Ouais, mais il est petit et insignifiant.
Ah, d'accord. Ah, est-ce que je le tente ou pas? Ça vous semble intelligent ou c'est une bêtise?
Ah bah oui, ils peuvent pas te répondre. Fais ton choix.
Ah,
là
je peux
pour
te
le coup...
en tant que joueur, mais pas en tant que...
Ouais. Ouais. Okay. Moi, je dirais que là, pour le coup, Andy est seul à ce moment-là.
Oui.
Donc, je te dirais de prendre ta décision.
Merde. Ok, non, je vais pas le faire.
Ok.
Je vais pas le faire. Je pensais que c'était... que ça pouvait être parfaitement...
On annule Herbal! Herbal!
Safe state, on recharge la partie.
Ok.
Vous...
Oui.
Non, bah du coup, je réponds à... Ça salut... Ça... Ah, peut-être pas, je sais pas. Oui. Non,
non,
c'est vrai.
Il a pas fini.
Ah, ouais,
on écoute.
Je lui coupe la parole et je...
Donc.
Oui, bah bonjour.
Il vous présente Ecléa et il y a un homme un peu rondelet avec les cheveux un peu gras, une belle raie au milieu et brune qui lui tombe sur les épaules, qui est en habit de magistrat. Et je vous présente le pilier de l'oracle, Maître Evic Lestet.
Le pilier de l'oracle.
Seriez-vous Evic favorable à une discussion dans un cercle de vérité?
Alors attends.
Et il montre de sa main un petit salon qui est effectivement sur une sorte... Il y a plusieurs chaises en cercle et il y a un cercle runique autour afin de pouvoir... parler sincèrement de nos affaires et que vous soyez en toute quiétude sur nos attentes.
Alors là, si personne ne répond, je vais répondre. Mais...
Enfin, mais moi je suis pour. Hein. Je regarde mes compagnons. Mais...
Bah, tu
moi
vois,
je fais des grands
moi,
yeux.
Moi aussi, il y a un truc de.
On n'a rien à cacher, on y va.
Non, mais bien sûr que nous on n'a rien à cacher. Mais rappelez-vous, la dernière fois, même au cercle, il y a des espions, on peut entendre
mais
ce qu'on dit et tout.
On n'est pas obligé de répondre à la question. C'est juste qu'on peut pas mentir, mais on n'est pas obligé de répondre à la question.
Tout à fait.
Mais le sujet, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a des gens qui peuvent nous entendre et qui peuvent colporter nos informations. Et s'ils savent que ces informations sont la vérité vraie, elles sont plus valeureuses. Donc.
Moi, je trouve que c'est un accueil un peu rude.
Alors, vraiment, vraiment, Auguste vous regarde. Je ne prétends pas savoir ce que vous avez traversé ces derniers temps. Vous devez avoir peut-être beaucoup de choses sur le cœur. Je ne me tiendrai qu'à le cadre de mes prérogatives. Nous ne parlerons que du procès à venir, et je ne vous embarrasserai de nulle autre question. C'est ici une pratique que nous avons l'habitude de faire pour que chaque partie se sente en sécurité. Et il pose les yeux sur Moyoko Yotsin et Zuri, qu'il voit vraiment au pied. Bien que votre venue soit singulière, j'aimerais que le protocole que nous appliquons tous soit également respecté.
Pouvez-vous nous assurer que nous sommes en sécurité ici et qu'il n'y a pas d'espions ou de...
Peut-être.
On se voit que Sol est très mal à l'aise face à ce concept.
Peut-être que, à part le cercle des héros, vous vous trouvez dans l'endroit le mieux gardé de tout Sirius.
Nous savons qu'au cercle même, il y a des espions.
Certes.
Et je m'avance. Déjà, je prends le temps de le saluer parce que du coup, on n'a pas répondu à sa salutation. Il nous a direct proposé le truc, donc je lui dis merci de nous accueillir en brise-mur et tout ça. Je lui exprime voilà.
Et il te, alors que tu lui parles, il te répond juste quelques petits mots et il te dit Déméter a déjà pris les devants en disant déjà beaucoup de bien. De vous, etc., etc. Il te répond assez sympathiquement et, okay. et un peu comme Ecléa, te dit particulièrement à toi, un bon retour chez toi, etc., etc.
Moi, je reste très protocolaire, même si je prends
et
du coup,
lui
voilà, tu vois, genre, voilà, je fais genre les politesses, truc, machin, les trucs des nobles. Genre,
le couteau à droite, tourné vers la gauche, voilà, on retourne
pas
le pain.
Voilà, c'est ça, exactement. on rote pas au visage des gens, tout ça, tout ça. Et du coup, comme je sens que, bon, il y a des réticences, mais qu'il y a quand même un côté un peu forcé, quoi, Donc je fais les politesses et tout, et je dis qu'on va respecter le protocole d'accueil. Mais je glisse une formulation qui fait comprendre que, en vrai, on vient de descendre de bateau d'un long voyage qui a été très fatigant, et que c'est quand même une drôle de manière de
d'accueillir les gens.
C'est ça, de nous recevoir et tout ça, mais que là, on est des héros, machin. On va respecter le protocole.
Comprend aussi un peu l'urgence du
oui, c'est ça. Et oui, en fait, très vite, il t'explique que le procès a été retardé depuis de nombreuses semaines, et il regarde Moyoko Tin dans les yeux. Et pour lui, il faut accélérer au plus vite parce que à tout moment, le climat qui règne au bayou est explosif et que il suffit d'une journée de trop pour que tout cela ne serve plus à rien.
Ouais.
Moi, je fais confiance à Zori. Zori a confiance en ce mec-là. On y va.
Dans ces conditions, pareil, je rentre dans le cercle de vérité. Auparavant, je demande à Auguste de Blême si nous-mêmes, nous pourrons lui poser des questions.
Évidemment.
Au sein de ce cercle.
Et du coup, Nova est extrêmement anxieuse à l'idée d'entrer dans un cercle de vérité puisqu'il s'est passé plein de trucs.
Il a pas l'air d'y prêter attention, ouais, plus que ça.
Et en vrai, parce que même je suis toujours à tripoter la bague qui peut disparaître
invisible.
Là. Ouais, elle est invisible, mais du coup, je frotte le doigt tout le temps.
Ok.
Ouais, c'est pareil, ouais. Il est extrêmement mal à l'aise. Il essaye de dissimuler qu'il est en train de suer.
Ils ont rien à cacher. Non, non.
Vous entrez dans ce cercle, ce sont des fauteuils très confortables et il y a une table centrale et il y a des amandes. Des noix, des fruits secs, des choses comme ça.
Moi, je prends un gros paquet d'amandes, je le fourre.
Il y a de l'eau, du vin, du cidre. Et Auguste de Blême s'assoit. Le temps nous est compté. Merci d'être venu au plus vite. Vous avez certainement fort à faire, à vous reposer, mais nous devons discuter de choses pressantes. Votre maître, le guerrier Tosca, va être escorté.
Notre maître, bon, t'es pas vraiment un maître.
Je ne sais pas quel terme vous employez dans votre hiérarchie, pardonnez-moi.
C'est un collègue.
Notre allié.
Ouais.
Mais n'est-il pas héros du cercle alors que vous êtes apprenti?
Oui, mais je...
N'y a-t-il pas de ce genre de considération dans le cercle des héros?
Le rapport hiérarchique n'est pas aussi clair, non.
Très bien. Alors pardonnez-moi de ma négligence. Je disais que Tosca, l'oracle, vont être escortés, comme le veut l'usage dans nos procès, dans le palais de la justice. Ils vont être mis à l'écart pendant un certain moment, le temps que le procès débute. Et avez-vous besoin que je vous réexplique l'usage de la justice dans nos contrées?
Oui.
Et il vous explique que ça se passe comme ça. Ce procès ne condamne en vérité personne. L'objet de ce procès, c'est de savoir si, oui ou non, une partie de Racine doit être annexée à Ernest Gonzague Courtegrève ou non.
Est-ce qu'il est là, Ernest Gonzague Courtegrève?
D'abord, avant vos questions, il vous explique comment se marche, comment se passe une cour. Chaque personne opposée dans ce procès a ce qu'on appelle un pilier. Ce pilier, c'est un genre d'avocat qui va représenter les parties. Ces piliers vont énoncer leur plaidoirie face au Conseil des Justes que préside Auguste de Blême lui-même. Le tout se fait dans une salle sécurisé et effectivement dans un cercle de vérité. Il y a, pour préparer ce procès, la possibilité pour le pilier d'appeler plusieurs personnalités de son choix, de préparer avec des témoins à charge le procès, etc., etc. Et ensuite, c'est donc au Conseil des Justes, une fois qu'il a entendu les deux piliers s'opposer et entendu les preuves ou les choses de chacun, de trancher. Mais ce que vous explique Auguste de Blême, c'est que ce procès est très particulier parce qu'il est flamboyant pour plusieurs raisons.
Déjà, la venue de l'oracle et la venue des apprentis héros de la nouvelle promotion du cercle créent une sorte d'émulsion presque médiatique terrible qui empêche beaucoup un travail méticuleux et neutre. L'autre problématique, c'est qu'il y a des enjeux très forts. Le retard que vous avez eu a certainement déséquilibré les choses parce que le pilier d'Auguste de Blême, qui a été envoyé, a eu tout le luxe de préparer une défense solide, sachant que
pas d'Auguste de Blême,
de Gonzague Courtegrève, sachant que Gonzague Courtegrève n'est pas là lui-même, il envoie seulement son pilier.
Que
pour très rapidement, et ensuite vous pourrez bien sûr discuter avec lui, il vous annonce plusieurs problématiques. C'est que Valim, qui a normalement l'usage d'être l'intermédiaire, a disparu, voilà quelques jours. Ainsi que le témoin le plus important, Nello Kokatsin.
Il avait dit de veiller sur...
Très bien. Où ça ? Il a disparu ? Où est-ce qu'on a une dernière trace d'eux ?
Valim était sous la protection du baron Emilius de Blême. Il s'est simplement volatilisé. Cela est très préoccupant.
Et Nello
Kokatsin.
Le témoin.
Le témoin.
Le traître, tu veux dire ?
Bah oui, mais bon.
Témoin était, comme l'est maintenant ou dans très peu de temps, l'oracle. Était dans le palais de la justice, dans ses appartements.
Donc le lieu le plus sûr de tout.
Le palais de la justice n'est pas le lieu le plus sûr. Nous ne sommes pas au sein de notre forteresse. C'est un lieu de magistrature. Mais il est tout de même, je suis d'accord avec vous, très préoccupant que cet événement se soit produit. Et je vous assure que nous avons pourtant mis les formes et les protections nécessaires pour que cela n'arrive pas.
Okay.
Mais plus encore, le fait que Valim lui-même ait disparu, bien sûr.
Bah, je veux accès à toutes les informations de cette enquête.
Ce sera évidemment possible. Vous aurez même accès aux appartements de Valim lui-même.
Oh. Moi, je voudrais rediscuter d'un point de détail concernant le procès. J'ai l'impression qu'il y a eu méprise quant à son organisation. Parce que nous ne sommes pas là pour discuter et savoir si Racine doit être annexée à Courtegrève ou non. Le procès est ce qui a été constaté par votre commandant Sorn également, qui a pu recevoir les premiers témoins de l'affaire. C'est une malversation qui a été organisée par Courtegrève, pour laquelle nous avons traversé la moitié du continent afin d'en trouver et de vous ramener un témoin. Donc le procès est là pour savoir si Courtegrève doit être emprisonné ou non.
Le pilier de Gonzague Courtegrève, Vladir Blambonnet, a avancé des arguments différents. Pour lui, l'oracle a cédé ses terres. Et en cela, Gonzague Courtegrève serait dans son bon droit.
Mais la parole de l'oracle va
surtout
très vite invalider cette...
Ce qui démarre ce procès, ce n'est pas la parole de Courtegrève, ce n'est pas la parole de son pilier, car le pilier a pu parler une fois que le procès était en route. Ce qui démarre ce procès, c'est la constatation de la part du cercle et de la part de l'un de vos commandants d'une malversation ou d'un soupçon de malversation. De ce fait, nous ne pouvons démarrer un procès qu'en prenant en compte cette malversation.
Et il t'écoute attentivement. Et alors qu'il te parle, la porte s'est ouverte au loin et un page est venu pour lui parler à l'oreille et est reparti. Et tu constates son imperceptibilité juste un peu faillir. Il a une espèce de léger rictus.
J'observe très attentivement.
Tu peux me faire un jet de perception.
J'ai fait 10.
Tu ne saurais pas dire. Et ceux qui observent, vous pouvez. Hein.
J'ai
de perception.
12.
Non.
Et plus 4, 15.
Non.
Et il te regarde.
Moi, je fais pas ça, je
suis. Vous aurez tout le temps de parler de tout ça avec votre pilier. Je suis navré que ce procès se passe d'ores et déjà dans des conditions que vous jugerez peut-être injustes.
Valim a quand même eu le temps de vous faire son rapport.
Et il vous regarde vraiment tous. Oui, il a eu le temps.
Et vous l'avez en votre possession, ce rapport ?
Tout à fait.
Et vous allez l'utiliser lors du procès ?
J'ai transmis ces informations à votre pilier, au pilier de l'oracle. Moi, je serai impartial. Je vous laisse donc la journée pour... Oui, Maître Moyoko Yodzin.
Non, je rebondis sur les mots que vous utilisez parce que vous parlez d'impartialité, sauf que là, on vous demande en fait de trancher en tant que président justement de cette cour de justesse.
Justice.
Si tout le monde est là, enfin tout le monde va ramener des faits, ces faits-là sont ramenés par des personnes, donc entre autres Valim, entre autres des témoins qui sont là et puis qui ont disparu, ça montre que quand même, c'est pas de leur bon... enfin c'est de mauvaise augure de se dire qu'il y a quand même des témoins qui sont là justement pour ce truc là et ils disparaissent, donc ce procès là ne peut pas avoir lieu tant que tous les éléments ne sont pas rassemblés pour pouvoir que ce procès là soit fait dans le bon et due forme. Donc,
les choses, et il t'interrompt, malheureusement il t'interrompt, je suis navré, les choses doivent être faites comme nous l'avons toujours fait, le temps presse, votre peuple, sa survie en dépend peut-être, et malheureusement, aussi terribles soient les conséquences de ce que nous déciderons, ou aussi complexes soient les informations auxquelles nous avons accès, nous devons agir tel que notre fonction nous l'impose.
Votre fonction, elle demande d'être impartiale.
Alors ne m'agressez pas au sein de mes murs, car j'ai passé ma vie à incarner cette impartialité.
Permettez-moi.
Je vous respecte et respecte également vos frustrations. Mais c'est avec votre pilier que vous pourrez déverser votre colère.
Je suis assise à côté de Moyok et je pose ma main sur son poignet et je serre un petit peu en mode je comprends et tout, plutôt dans l'idée de lui faire comprendre que je partage sa colère, mais pour apaiser un peu le truc.
Et tu sens que Auguste de Blême, quand il t'arrête, il a vraiment pas un mot plus haut que l'autre. Et pour le coup, il fait vraiment preuve de neutralité.
Sans froid.
C'est terrible, quoi, presque.
Je suis pas en train de vous gronder ou quoi que ce soit. C'est là, je mets en lumière et je suis en train de parler de la situation,
et
de la qualité.
Je vous prie de croire que cette situation sera prise en compte.
Je me permets une question, si vous me permettez.
Allez-y.
Très cher monsieur de Blême, à votre avis, si le jugement donne raison à Courtegrève que l'occupation de Racine est légitime, quelle sera la position d'Orplaine, quelle sera la position de l'œil face à ce jugement?
Et à l'inverse, si c'est en faveur de l'oracle.
Oui, voilà, faisons les choses dans l'ordre. Jugement donne raison à Courtegrève.
Il ne m'appartient pas de parler de ça avec vous pour le moment. Et
je vous demande simplement votre avis.
L'œil se rangera du côté de la justice et nous la défendrons.
Que si par exemple Ernest Gonzague Courtegrève, que le jugement lui donne raison, qu'il requiert des troupes pour faire face à des hommes serpents qui tenteraient
de reprendre
leur territoire...
Nous ne massacrerons pas le peuple des hommes serpents. Il n'est pas question de cela. Mais si Gonzague Courtegrève détermine, si nous déterminons qu'une partie de Racine lui a été promis comme il le dit, alors nous œuvrerons pour que chacune et chacun reste de son côté de la loi.
Je regarde Auguste de Blême dans les yeux, et quand il dit qu'il ne s'agit pas de massacrer ou non le peuple des hommes serpents, je l'interromps et je lui dis: Monsieur Auguste de Blême, avez-vous vraiment lu les rapports? Le procès qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas un procès d'affaires. Nous n'avons pas traversé la moitié du continent pour faire un procès de l'économique, pour savoir à qui appartient tel ou tel morceau de terrain. Nous avons assisté à une tentative de génocide, à un crime contre toutes les espèces du monde. Vous en avons rapporté les faits. Le procès qui s'ouvre, c'est ce procès-là. Aucun autre. Voici l'impartialité. Dans le cercle de vérité, comprenez-vous ce que je vous dis ?
Et il te regarde de façon vraiment impartiale. Il ne tressaille pas. J'ai entendu vos paroles. Malheureusement, je n'étais pas là pour constater ce que vous avez dit. Aucun de nous ne l'était. Mais faites confiance à la justice.
Deuxième question. En cas de jugement, si la cour détermine que l'oracle, enfin que les hommes serpents ont raison et que Ernest Courtegrève a tort, quelles actions seront
alors
entreprises ?
Alors Gonzague Courtegrève sera amendé
et arrêté.
Arrêté ou du moins chassé et devra répondre et réparer les torts qu'il a causés.
Et est-ce qu'on donnera aux moyens du peuple homme-serpent ?
Nous ferons appliquer la justice.
Est-ce qu'on donnera les moyens au peuple homme-serpent de reprendre les terres qui légitimement...
Bien
du
sûr,
coup, en
puisque
cas de jugement
ce seront les leurs.
Très bien.
Comment comptez-vous y indemniser les innombrables victimes ?
Je ne suis pas un héros. Je ne ramène pas les corps à la vie. Mais je ferai ce que je peux dans le cadre de mes prérogatives.
Qui nous vous y assisterons.
Qui d'autre est au conseil des justes, s'il vous plaît, à part vous ?
Ils te donnent plusieurs noms qui te disent rien. Ce sont des notables qui sont des... En fait, la justice, c'est-à-dire qu'il y a des écoles de justice.
Est-ce que c'est que des gens d'Orplaine ?
Non, il y a des gens de Falaine aussi. Il y avait des postes de gens de Roche-sous-Puy, mais
est-ce que c'est
maintenant...
que des humains ? Est-ce que c'est...
Il y a des gnomes, il y a des humains, il y a des nains. Mais c'est vraiment des gens qui ont appris à être impartial. C'est-à-dire que... Non.
Bah, il n'y a pas de serpent.
C'est la première fois que ça arrive, en fait, dans ce genre de choses. Un procès où, avec le peuple Sislich. Dans ces conversations, Auguste de Blême vous interrompt. Je comprends vos appréhensions sur le système de la justice, sur nos croyances, sur les vôtres, sur le schisme du cercle des héros, sur l'œil. Mais il n'est pas temps de nous quereller sur ces sujets maintenant. Il est temps d'apporter la preuve, si vous le pouvez, de à qui appartient la loi, à qui appartient ce côté de Racine. Gonzague Courtegrève l'a-t-il usurpé ou non ? S'il vous semble évident de l'issue de ce jugement, alors je vous laisse avec votre pilier pour préparer au mieux votre plaidoirie.
Monsieur Auguste de Blême, êtes-vous au fait du statut de l'oracle au sein de son propre peuple ?
Que voulez-vous dire ?
Je veux dire que l'oracle lui-même est considéré comme un baron par les autres peuples.
Bien sûr.
De Sirius, mais lui-même ne se considère pas comme un baron. Elle-même ne se considère pas comme un baron au sein de son propre peuple. Je ne vois pas comment une personne qui ne considère pas posséder Racine pourrait le céder à quelqu'un d'autre. Quel est le sens du procès ?
Je ne peux pas juger avec vous de cette question. La problématique
n'est pas une question, monsieur Auguste de Blême.
Du sens de la loi, elle est référente de ce territoire. Cet individu qu'est Gonzague Ernest Courtegrève déclare que l'autorité, aux yeux de Sirius, lui a cédé une partie de ses terres.
Monsieur Auguste de Blême, je me permets de vous reprendre.
Et il t'interrompt, je suis navré. Et il se lève, nous allons sortir de ce cercle, car je ne peux pas parler plus avant de ces sujets. Mon rôle était simplement de vous accueillir et de vous expliquer. Vous devez prendre le temps de parler avec votre pilier. Et il est assez intransigeant. Je me dois d'être impartial. J'ai été formé pour.
Si vous devez d'être impartial, vous devez admettre la loi de Racine autant que la loi d'Orplaine.
Vous le défendrez avec votre pilier et il sera, au cours de ce procès, jugé et identifié qui est du bon côté de la loi ou non. Ce n'est pas le lieu. Je ne peux pas le faire moi-même sans le conseil des justes.
Très bien.
Je vous remercie.
Merci de
Et vous sentez qu'il y a une électricité entre ce jeune homme qui fait face à cet homme mûr qui est un immense commandant d'armée et qu'il y a une électricité entre deux et une espèce de silence. Et vous voyez ce petit bonhomme qui était assis à côté de vous et qui a une paperasse qui lui déborde de ses petits bras potelés avec une petite goutte sur le front.
Bon bah j'ai l'impression que là c'est à moi de prendre le relais, si je puis dire.
Ah oui.
Voulez-vous prendre un moment ou procéder tout de suite dans mon cabinet? Quelque chose de ce genre, je ne sais pas.
C'est Evic là qui nous parle?
Oui, c'est ça, c'est Evic l'esthète.
Eh ben...
Est-ce qu'on prend le temps d'aller en ville avant ou est-ce qu'on se fait ça?
Non, on fait ça tout de suite. Non.
Ouais, allez.
Moyo, tu peux me faire un jet de perception pendant ce temps.
Attendez, je pense qu'on découvrira peut-être des choses en ville parce que moi je voulais essayer peut-être déjà de savoir si y avait des trucs à voir. Donc peut-être après, on va enquêter en ville et après peut-être on aura des choses à lui dire.
Moi j'aurais fait plutôt l'inverse, savoir où il en est, ce qui lui manque comme information pour défendre
d'accord.
Et après,
et après revenir. Bon, très bien, super.
Moi je voudrais avoir ses références.
Ok.
Ça, bah non, mais c'est vrai, savoir qui c'est.
Oui.
Et
oui,
je pense que la qualité du pilier influe énormément sur
un jugement
impartial. Je
vous signale que je suis là. Hein. Oui.
Non, mais vous êtes impartial.
C'est-à-dire que j'essaye.
Ah oui.
Mais non, je ne suis pas impartial. Je vais me mettre au service de vous, du côté de.
Et tu vois qui? Il cherche ses mots. Pouvons-nous procéder dans mon cabinet?
Oui,
j'ai plus l'habitude
de
laisser mes
documents.
Ça fait
combien de temps que vous faites ça?
Et il regarde vraiment Auguste de Blême, il regarde partout. Pouvons-nous aller dans mon cabinet?
Combien de temps que vous faites ça?
Je serais plus à l'aise. Je suis assermenté, j'ai tout, mais les formations nécessaires pour faire ce travail.
Depuis quand, j'ai
fait mes études dans les académies d'Orplaine il y a plusieurs années déjà.
Oui, moins de trois.
Trois ans, je serais...
Trois mois ou trois ans?
Nous pouvons aller dans mon cabinet,
si vous
voulez.
Non, parce que là, il y a un cercle de vérité, donc c'est assez intéressant. Ça fait combien de temps, du coup, que...
Je pratique... l'art d'être pillé depuis un peu plus d'une année, mais c'est la première fois qu'on me confie une charge de cette amplitude.
Là, je regarde Auguste de Blême. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à changer tout de suite, Andy?
Et vraiment, Auguste de Blême vous regarde et...
Vous pouvez pas mettre quelqu'un d'aussi inexpérimenté sur une affaire de cette
tard.
Ampleur. Quoi?
Le pilier a été déjà choisi, vous n'étiez pas là.
Oui, mais comment? Non, mais...
C'est la loi.
Non, mais
et
vous
vraiment,
l'avez dit...
la, vous entendez que Ecléa vous presse un petit peu et dit « Peut-être le commandant n'a pas été assez clair, mais vous devez respecter la loi et vous devez vous entretenir avec votre pilier. Il n'est pas ici le lieu de juger. »
Je me lève du siège et je sors du cercle. Je sors de la pièce pour attendre mes camarades.
Ouais,
et les uns et les autres sortent. Bon,
moi, je ne sors pas. Je continue de regarder Auguste de Blême.
Super. Si vous voulez, je vais dans mon cabinet.
Et Auguste de Blême reste.
Monsieur Evic l'esthète, je continue de regarder Auguste de Blême.
Oui.
Vous considérez-vous du niveau de votre adversaire, du pilier de Courtegrève?
De Vladimir Bourbonnais, bah, disons qu'on n'a pas le même genre de commission, si vous voyez ce que je veux dire. C'est
et
un
si
véritable renard dans la profession.
Mmh.
Oui,
mmh.
C'est
et
ça.
Et si vous-même étiez juge d'une affaire,
moi, je suis plutôt une loutre.
Que...
qu'un renard, si vous voyez.
Oui.
C'était pas le moment de l'humour, pardon. C'est parce que je suis légèrement stressé.
Oui, non, mais je comprends. Hein. Moi aussi, je serais stressé.
Mais c'est un honneur. Alors, par contre, je vais mettre tout ce que j'ai parce que c'est vraiment un immense honneur que de se voir offrir le poste de pilier pour une affaire aussi importante. C'est quand même
du
prestige.
Merci. Monsieur Evic, l'esthète.
Vous me faites peur quand vous me parlez comme ça avec. Mais oui, j'écoute.
Pensez-vous que ce soit la marque de l'impartialité de vous mettre comme adversaire ce monsieur qui est connu comme un véritable renard?
Eh bien, Je pense que la justice, heureusement, n'a pas ce genre de considération, parce que sinon les gens comme moi seraient simplement des nullos et incapables de juste transcrire. Et la fonction de pilier n'est moins de convaincre que de bien transmettre ce que les autres ont à faire pour convaincre.
Je rentre dans la pièce, je coupe tout le monde, je fais « Qu'est-ce que vous attendez là ? Vous croyez qu'on a, attendez, on a toute la journée ?»
Ben, je sais pas, moi je pense que là, déjà, il y a une impartialité manifeste dès le début, et je suis sûr que M. Auguste de Blême, même s'il se retranche derrière l'application de sa loi, est capable,
constate même
qu'il y a une inégalité de base avant même que le procès ait commencé, et j'aimerais, et là je le regarde, Auguste de Blême, j'aimerais vraiment... lui faire part de ce cas qui
est vraiment pose problème. Il commence à soupirer légèrement, vous sentez qu'il s'impatiente. Que voulez-vous ? Vous voulez que je réécrive l'histoire pour les autres ? Ernest Gonzague Courtegrève est un citoyen. Il a un pilier, de l'argent pour le payer. Depuis des années, il connaît nos lois, les lois de Sirius. Il est en litige avec un peuple qui n'a pas ce genre de préoccupation. Et nous devons arbitrer cela,
mais nous,
là où personne ne l'a jamais fait.
Mais nous, on a de l'argent, on peut payer.
Et je ne peux pas faire autrement qu'avec les armes qu'on me donne. Maître Coriolis, je ne suis pas un héros.
Mais je vous demande pas d'être un héros,
Je suis un arbitre, impartial.
Justement.
Et vous cherchez à me faire pencher d'un autre côté.
Non, je cherche à vous rendre compte que pour l'enjeu.
C'est bien
de
mal
ce procès,
me connaître de croire que je suis assez aveugle pour ne pas constater ce qui m'entoure. Laissez-moi être ce
écoutez,
que je dois être dans ce procès.
Écoutez.
Et ne faites pas
écoutez-moi.
L'erreur de vous desservir avant même que tout cela commence.
Avant même que tu prennes la parole, je reviens, je me poste.
Vous sentez qu'il impose
Auguste
quand même un peu et qu'il est, il est troublé par cette rencontre dont il avait probablement quelques attentes et il fait un vrai effort de se laisser parler comme ça par quelqu'un. Il reste courtois, il essaye vraiment, et il reste dans le cercle, il ne bouge pas, il vous laisse l'interroger, et il ne dit que la vérité.
Je me poste devant lui,
bien sûr.
Et je fais une révérence, et je le prie d'excuser le comportement de mes camarades, et je l'invite à reprendre ses affaires.
Et il expire profondément. J'ai conscience que la charge qui vous incombe est titanesque. Et si vous voulez un mot hors de mes prérogatives, apprenez. Et c'est comme si ça lui échappe, il s'étonne lui-même de dire cela. Que mon père est très malade. Et qu'il est d'autant plus difficile pour moi de mener cette affaire aujourd'hui. Et que je m'efforce de le faire du mieux que je puisse.
On a
et
eu un mot de Tosca disant qu'Emilius de Blême était extrêmement malade.
De Valim.
Et vous entendez assez clairement d'ailleurs qu'il donne des informations au page. Ce page qui était venu et qui revient fait « Oui, je vais passer le voir, remettez-lui une tisane, nanana, ce genre de choses. Okay. »
D'accord.
C'est-à-dire que ça se présente de façon plutôt déjà dynamique. Est-ce que vous voulez bien passer dans mon office peut-être ?
Allons-y.
Bon. Eh ben, suivez-moi. Vous suivez Evic, l'esthète, et vous sortez de la forteresse pour rejoindre les quartiers un peu plus modestes et vous rentrez dans une petite boutique. Cling, cling,
c'est moi, je suis entré.
Et vous voyez une jeune alpheline fait
« Ah, bah tu auras mis le temps, dis donc. »
Ah oui, mais parce que j'étais, tu sais, j'étais avec les clients, j'étais à la forteresse, j'étais à l'œil.
Ouais, bonjour.
Bonjour.
Voulez-vous du thé ?
Bonjour.
Oui, avec plaisir.
Très bien, je m'en charge. Et t'aurais pu faire un peu de net, parce que c'est quand même pas très présentable de recevoir les gens. Oui, bah, tu es gentil, je fais comme je peux, et tu travailles. Merci. Et
tu vois, il vous regarde.
Allez, avancez dans mon humble office.
Merci, c'est très joli.
C'est le bordel.
C'est vraiment un bordel dingue.
C'est très joli.
Merci. Bon,
Lézard, là, je vais être pris pour un moment. Est-ce que tu pourrais t'occuper de... Oui, je m'en occupe, Evic. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Juste, je t'ai demandé de faire un peu d'or. Oui, je suis désolé, Lézard. Je fais comme je peux. Bon, suivez-moi. Ah,
vous asseyez dans des chaises qui grincent.
Bon. Alors, où est-ce que j'ai mis mes petites coquilles? Tac.
Il sort ses petits trucs et tout.
Ah, l'oracle ne peut pas être présent tout de suite. Nous irons la voir dans un second temps.
Mais pourquoi?
Mais nous aussi, nous allons aller... Alors, où on peut commencer par aller le faire là-bas. C'est-à-dire que j'avais mes papiers ici. Alors, je me suis dit que vous aviez peut-être des questions avant qu'on puisse aller préparer ça aussi avec les autres. En fait, reprenons les choses dans l'ordre, oui. Je peux déjà vous dire que la problématique, c'est que... Vladimir Blanc-Bonnet est un vrai... Un vrai pont dans la profession, ça c'est une première chose, et que Gonzague Courtegrève n'étant pas présent, il est le seul représentant de la loi, et ça, je dois dire, c'est problématique. Surtout que j'avais quand même travaillé, hein, et il sort un gros dossier, mon argumentaire sur deux points essentiels, qui sont la lettre de Valin, alors que je vois ici, qui est le rapport sur vous, et aussi le rapport sur la situation. Enfin non, d'ailleurs, pas sur vous du tout, hein, mais à vous... Vous voyez ce que je veux dire quand il était avec vous et qu'il a fait...
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Donc cette lettre-là et aussi la présence de le témoin à Sars, c'est compliqué pour moi, vous voyez.
Il n'y a pas de souci.
Mais il n'y a aucun souci, c'est vrai. Et les deux sont portés disparus. Et ça c'est comme on dit dans le métier, c'est une tuile. C'est la tuile.
Oui.
C'est la vasserie. Et du coup, là, c'est sûr que... En plus, le papa de... Le père de... Enfin, le baron de Blême, oui. Étant malade, oui. je vois bien que Auguste de Blême, je ne saurais pas dire ça, mais n'a pas l'air d'avoir toute la...
Monsieur l'esthète.
Ça m'a l'air un peu fouillé.
Vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'appliqué et de sérieux.
Ah oui.
Et qui connaît la loi, qui a très bien été formé.
Tout à fait.
Existe-t-il un moyen pour déposer un recours pour...
Oui,
reporter le procès dans des conditions plus justes.
Bien sûr. Mais ce procès, le problème, c'est que c'est une course contre la montre et que demain, le procès ne servira à rien.
Ah, c'est demain.
Ça devait être déjà il y a plusieurs semaines, peut-être. Nous devons être rapides.
Est-ce que nous, du coup, on peut pas faire office de témoin?
Mais si, tout à fait. C'est pour ça que nous allons. C'est pour ça que vous devez me raconter dans les moindres détails ce que je dois.
Donc
reconstitué devant la cour des justes.
Véritablement compté.
Avant qu'on démarre, vous parlez de l'état du père d'Auguste de Blême qui nous servira de juge suprême. Est-ce que vous pensez que ce père peut servir de moyen de pression d'une manière ou d'une autre?
Je ne pense pas à proprement parler à moyen de pression, mais malgré l'impartialité que je reconnais de cet homme, je pense que la maladie d'un père, malgré tout, pèse sur la concentration, le moral, ce genre de choses, c'est sûr. Mais c'est sûr que, je n'irai pas m'aventurer dans ce genre de choses. Mais la disparition de Maître Soc, ainsi que celle du témoin à charge, la non-venue de Gonzague Courtegrève, et que le témoin même appelé de Gonzague Courtegrève, le dénommé, que vous connaissez peut-être, l'artiste Frisic.
Ah oui.
Qui réside en Brismur, est indisponible.
Ah, il est indisponible, tiens.
Eh bien, nul certain, mais
okay.
il semble être indisposé à venir.
Pourquoi il n'est pas là et je pense, grève.
Mais parce que je pense,
venir,
je
très pense bien qu'il a un charisme de moule.
Et puis parce que peut-être que notre opposant a peur de venir dans ce cercle de vérité et qu'il utilise une seule chose, c'est le temps.
C'est bien.
C'est-à-dire que
notez-le,
nous pourrions...
dans votre argumentaire.
Je le note.
Notez-le, c'est super.
J'aurais dû avoir ce genre de petite machine que font les gnomes. C'est très pratique, on peut taper.
Peut-être que je peux vous bricoler un truc, là, si vous...
Oui, mais nous n'avons pas le temps. Ce que je veux dire, c'est que si nous repoussons ou nous attendons des signes plus propices à notre...
Oui.
Il sera peut-être trop tard. Je pense que si Gonzague est dans une situation illicite...
Oui.
eh bien, il a tout intérêt à nous faire perdre du temps pour la situation explose.
Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est que quelqu'un vienne avec moi tout de suite en ville. On va essayer de retrouver soit Neno Kukadine, soit Sok, soit Frizik. J'ai peut-être une piste. Qui vient avec moi?
C'est sûr que ça nous aiderait grandement.
Est-ce qu'il y a des pistes, justement, pour retrouver Neno?
Moi, j'ai des pistes, mais il faut que quelqu'un vienne avec moi.
Attendez, vous avez dit que l'espèce de d'oratoire, pour ne pas appeler ça un procès, elle sera avec un cercle de vérité.
Tout à fait.
Donc pourquoi aller chercher des gens? Oui, d'accord, ok, je comprends.
Des gens qui peuvent dire cette vérité, justement.
Ça, je suis d'accord, mais des gens qui peuvent dire aussi des vérités. Il y a l'oracle actuellement qui est dans les murs de Brismure. Je pense qu'il faut renforcer la sécurité aussi, parce que s'il y a Valim qui a disparu et le témoin, pour ne pas l'appeler autrement, eh bien du coup...
Donc on fait deux équipes, il y en a qui vont voir l'oracle, et il y en a qui...
Je vous prie de m'excuser, mais...
On demande une sécurité renforcée.
Alors,
suite,
juste maître...
Moyo Koyoti.
Merci. Je ne vais pas le prononcer pour Moyo, éviter d'écorcher votre... Aussi. Voilà. Sachez que l'entrevue que vous avez eue avec le commandant de Blême a été une rencontre qui s'est déjà passée avec Vladir Blanbonnet. Et chose curieuse, dans ce même cercle de vérité, Vladir Blanbonnet affirmait sans sourciller que ce qu'il avançait sur la cessation d'une partie des terres de Racine à Ernest Gonzac-Courtegrève était une réalité.
Mais peut-être qu'il en est persuadé.
Ah mais je pense. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Tout à fait. Je vais vous laisser aller faire ceci et nous pouvons nous retrouver plus tard au palais de la justice avec l'oracle.
Excusez-moi, juste dans le cercle de vérité, pour qu'on soit bien d'accord et qu'on.
Tout à fait.
C'est vous. En tant que porte-parole qui sera...
Ainsi que les témoins que nous pouvons décider de faire venir à la barre.
Parce que c'est juste pour enlever toute...
Attention, n'allez pas dans ce genre de... Si vous n'êtes pas bien préparé, parce que, je vous le dis, Vladir Blanbonnet est un renard. Oui, et dans ce cercle, il pourrait vous faire dire des choses que vous n'auriez pas envie de révéler. C'est pour ça qu'on utilise un pilier, en général.
Ah oui, oui.
Parce que...
Oui, mais vous... Si on vous dit un mensonge et qu'on vous dit que c'est la vérité, hors d'un cercle.
Ah bah moi je dis la vérité me concernant.
Exactement.
La vérité.
Exactement.
Donc ça veut dire qu'on peut vous mentir.
Non mais depuis que je me rends compte qu'on ne nous apprend pas tout à l'école. Vraiment, je pensais que c'était plus mieux ficelé que ça. Hein, mais okay, là, il y a des problématiques. Je ferai remonter. Peut-être même que je ferai un courrier aux Joyeux Bardes pour que les gens puissent...
C'est quoi le Joyeux Barde?
Oh, c'est le journal local.
Ah oui, d'accord, ok.
Et là je ferai un petit littératum, c'est sûr. Oui. C'est sûr.
Est-ce que quand un témoin est appelé, il est obligé de se présenter dans le cercle de vérité.
Oui, ah oui, tout à fait. Ça m'intéresse.
Un appel de témoin contraint.
Ah oui, si. Ah.
Donc, enfin, on peut appeler comme témoin Gonzac Courtegrève.
Oui, mais comme je vous l'ai dit, ça va prendre plusieurs jours.
Oui, mais c'est ce qu'il cherche à faire.
Si Gonzac part, je pense qu'il fera exploser la situation pour la tourner à son avantage. Et là, il ne sera plus question de juger à qui vient tout, mais vraiment de juger un crime de guerre.
Comment vous vous sentez, très cher?
Ah, moi, j'ai la peste.
C'est vrai, vous êtes motivé.
Je me sens un peu fatigué.
Vous avez dit que vous étiez intimidé un petit peu par le...
Bah, c'est quand même... disons que hier, j'ai eu le privilège de m'occuper d'une affaire concernant une demi-vingtaine de citrons. Et là, je dois m'occuper de quelque chose d'un peu plus prestigieux.
Ouais.
Alors ça me laisse pas de marbre.
Eh bien, vraiment, moi je pense que c'est la première fois que vous faites une affaire si importante, mais je suis sûr que vous allez être très très bon, j'ai confiance en vous, je peux voir dans votre regard et dans tout ce travail que vous avez fait là, que vous êtes quelqu'un de dédié, et je pense que vous allez réussir.
Ah.
J'essaye de le motiver, de faire un discours vraiment qui l'inspire, et vraiment qui prenne confiance en lui et qui travaille le plus dur possible.
D'arrache-pied.
Vas-y, fais-moi un jet. De quoi donc?
Bah, je sais pas.
C'est inspiration, donc c'est charisme.
Ouais, ou persuasion.
Fais-moi un charisme pur.
Je t'envoie un. Comment on appelle ça? Oui, c'est ça.
Ah ouais, super. Ah, tu peux le faire sur lui, sinon.
Un dé d'inspiration de Bard. C'est donc
quelque chose se passer en moi.
C'est un dé 8 en plus.
Je sens que tu peux y arriver. Vas-y, mon Evic. Samir, tu as toujours dit. Je peux y arriver. C'est ton tour. Non, mais je vais pas vous cacher que pour moi, c'est peut-être le début de faire décoller ma carrière. Donc
j'ai fait 21.
grâce à ton dé.
Et je sens que attends, je peux attends. D'arriver, bon sang.
Et j'ai même fait plus parce que j'ai mon modificateur de charisme.
Ah, je sais pas ce qui m'arrive.
23.
Eh ben, vous avez raison. Et ensemble, nous allons faire triompher la justice.
Oui.
Et ensemble, nous allons redorer le nom de ceux qui sont délaissés pour contre.
Oui.
Et qu'on n'écoute pas assez souvent dans
oui,
ce genre
c'est
de
ça.
Cause. Et moi, je modestement... plié de cette affaire, je jure solennellement que je mettrai tout en œuvre pour que la justice soit justifiée.
Oui, bravo, bravo.
Maintenant j'ai un peu la tête qui tourne, je vais aller me reposer.
Prenez de l'eau.
Oui.
Bon.
On se retrouve ce soir
attendez,
dans
parce
les loges
que vous
de l'oracle.
Peut-être,
si
attendez,
voulez.
Parce que oui, voilà. Alors ce soir dans les loges de l'oracle, vous voulez pas y aller tout de suite plutôt voir l'oracle avec
moi je dois juste déjà compulser ce que j'ai entendu ce
d'accord,
matin
okay,
et
bien.
Tout et refaire un peu les choses, mais après j'y vais, j'y cours.
Oh, bah vous venez avec moi en ville.
Bah nous, il y a quand même une partie qui peut aller directement voir l'oracle, non
ouais.
Peut-être devant la
moi,
porte.
Moi je pense que là on a peu de temps, donc je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut se séparer.
On se split.
Ouais.
Ok, moi je viens
avec toi. J'ai toujours du cuir de narval à faire.
Écoute, les courses, c'est pas la priorité là.
Quoi ? Mais attendez, vous avez vraiment pas le sens des priorités.
Bon, on sait, on voit bien les bourgeois là, comment. Enfin bon, bref, pardon. Allez, moi je vais avec Andy en ville. C'est nous deux et vous trois qui allez voir l'oracle ?
Ah non, moi je vais en ville.
Ok, donc nous trois.
Pour moi, la priorité, c'est vraiment Nello. Hein. Nello Cocotine, c'est lui qui a toutes les réponses.
Bah ouais,
c'est
mais
lui
faut.
Qui a été soudoyé.
C'est lui.
Mais on va
c'est
pas, on
lui,
va
hein.
pas laisser Moyoc aller voir tout seul l'oracle. Il faudrait peut-être une autre personne avec
non,
lui.
Non, mais moi, je peux aussi aller voir l'oracle.
Ah ok, super.
Moi, je suis la priorité. Pour
ok,
moi, c'est
bon
Nello
bah on
Cocotine.
Met nous trois, on y va et vous deux, vous allez voir Nello Cocotine. Vous, vous ouais, deux, vous allez voir l'oracle oui. Et nous, on essaye de le retrouver.
Oui. Okay.
Vous sortez de l'office.
Tout à fait.
De
on dit au revoir à la dame Alphine qui avait l'air très gentille. Et on la remercie.
Ah oui, merci. Bon courage à vous.
Bonne journée.
Votre mari a l'air d'être vraiment quelqu'un de très
ce
très.
Pas mon mari.
Ah pardon. Votre
et elle est très gênée.
Votre frère, votre.
Bonne journée. Et elle ferme la porte.
Oh mais quel.
Légèrement.
Nul.
Et oh. Vous.
Seul Coriolis.
Et vous vous retrouvez au milieu de ce quartier modeste et vous voyez un beau début d'après-midi qui s'annonce. Ensoleillé en cette belle journée de printemps et les ventres gargouillent, marre de manger du poisson et des choses comme ça. Et vous sentez les effluves, les fragrances de s'échapper des auberges qui commencent à mitonner, les terrasses se remplir, etc. Et la suite, au prochain épisode.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi nos aventures. N'hésitez pas à nous soutenir sur le Ko-fi, lien en description, et à partager en masse nos épisodes et à mettre des petites étoiles sur Spotify. Ça nous aide énormément et ça nous permet de faire vivre ce podcast. Bisous à toutes et à tous et à la semaine prochaine.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.